Le langage. Les mots langage et langue viennent tous les deux du latin lingua qui désigne, comme en français, à la fois l'organe musculaire qui sert à la parole, l'aptitude à parler, ainsi que le système de signes dont on se sert pour parler. Plus précisément, on doit distinguer trois notions qui se définissent ainsi. D'abord, le langage qui désigne la faculté d'utiliser un système de signes. Puis la langue, qui désigne un système de signes propre à un groupe social donné. Et enfin, la parole, qui désigne l'acte par lequel un individu utilise une langue et s'approprie cette langue. Remarque, on confond parfois les notions de langage, la faculté de parler, et de langue, l'instrument qui sert à parler, comme lorsque on évoque le langage des signes ou par exemple le langage informatique. Alors qu'on devrait plutôt dire la langue des signes ou la langue informatique. Enfin, on va passer sur cette distinction. La réflexion philosophique sur le langage porte généralement sur des questions qui concernent sa nature ou bien sa fonction. Le langage est une réalité naturelle ou conventionnelle. Autrement dit, est-il commun à l'homme et aux animaux ou bien est-il une invention culturelle spécifiquement humaine? Le langage est-il uniquement un moyen de communication, un instrument servant à décrire le réel en vue d'agir sur lui, ou bien le langage a-t-il d'autres fonctions? Autrement dit, le langage a-t-il simplement pour vocation de refléter le monde naturel, ou bien ne permet-il pas d'accéder à une réalité autre qui serait en fait son produit, une réalité symbolique et culturelle? Ce double problème a notamment été posé par le philosophe grec Platon dans un dialogue célèbre qui s'appelle Cratyle, dans lequel deux penseurs s'affrontent sous l'arbitrage de Socrate. D'un côté, il y a donc Cratyle, qui prétend qu'une langue est un système naturel de signes qui reflète le réel. Et de l'autre côté, nous avons Hermogène, qui affirme qu'une langue est un système de signes purement conventionnel et institué par les hommes. Nous traiterons ici trois questions. Premièrement, le langage est-il le propre de l'homme? Deuxièmement, les mots nous éloignent-ils du réel? Et enfin, quel est le pouvoir des mots? Commençons par la première question. Tout d'abord, le langage est-il le propre de l'homme? Le philosophe Descartes a écrit, je cite, « La parole ne convient qu'à l'homme seul », lettre au marquis de Newcastle du 23 novembre 1646. Que veut-il dire par là? Tout d'abord, que les animaux, contrairement à l'homme, ne sont pas vraiment capables de parler dans la mesure où ils se servent instinctivement de systèmes de signes pour communiquer. Leur seule passion, c'est-à-dire leurs sensations physiques, le plaisir, la souffrance, l'appétit, l'agressivité. Partant de là, Descartes affirme que l'homme est le seul animal qui parle, car il est le seul à posséder la capacité de se servir d'un système de signes pour communiquer autre chose que des sensations physiques, à savoir des pensées dont il a conscience et qu'il peut forger librement dans son esprit. Autrement dit, l'homme serait un sujet, un être conscient, ayant quelque chose à dire, ayant une intention de communiquer et de s'adresser à un ou plusieurs autres sujets, contrairement aux animaux, qui ne seraient que des sortes de machines se comportant de manière automatique et non réfléchie, en produisant des signaux qui ne s'adressent pas à quelqu'un, mais qui ont seulement pour but de provoquer une certaine réaction chez un congénère. Cette thèse a fait l'objet de nombreux débats, notamment en raison de la séparation absolue qu'elle instaure entre le règne animal et le monde humain. Mais les découvertes récentes de la science, comme par exemple celle du zoologiste autrichien Carl von Frisch, prix Nobel en 1973, concernant le langage des abeilles en particulier, ne remettent pas fondamentalement en cause la thèse de Descartes, dans la mesure où il s'avère que les abeilles communiquent certes entre elles des informations utiles à leur survie collective, mais ce, de façon entièrement instinctive et mécanique, sans avoir aucun dialogue les unes avec les autres. Deuxième question, les mots nous éloignent-ils du réel? Le philosophe français Henri Bergson a écrit, je cite, « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. » Il a écrit ça dans Le Rire, publié en 1900. Selon le philosophe français, les mots sont comparables à des étiquettes collées sur les choses, c'est-à-dire qu'ils servent essentiellement à les désigner dans un but utilitaire, afin de nous permettre d'agir sur notre environnement pour satisfaire nos besoins. Or, selon Bergson, les mots feraient ainsi écran entre nous et le réel, il nous empêcherait de voir le monde tel qu'il est, dans sa complexité et dans sa diversité. Il est vrai que les mots constituent des catégories générales et abstraites qui permettent de ranger des êtres et des objets singuliers dans des ensembles communs, nous faisant perdre par là et du même coup ce qu'il y a justement de singulier en chaque chose et en chaque être. Mais la conception du philosophe français peut être critiquée, car elle repose sur un postulat, une hypothèse non démontrée, que nous qualifierons de réaliste, en vertu duquel il existerait une réalité en dehors des mots et du langage humain. Tout le problème, c'est que si tel est bien le cas, nous ne pouvons rien en savoir, puisque précisément pour savoir quoi que ce soit à propos du monde réel extérieur, nous avons justement besoin du moyen des mots et du langage. C'est ce que veut dire le philosophe et logicien autrichien Ludwig Wittgenstein lorsqu'il affirme que, je cite, « les limites de mon langage signifient les limites de mon monde » Tractatus Logico-Philosophicus, 1921. Cette dernière thèse consistant à affirmer que rien n'existe en dehors de ce que l'homme peut penser au moyen des mots et du langage peut être désignée sous l'appellation de nominalisme. Sous ce jour, les mots ne nous éloignent donc pas du réel, puisqu'ils se confondent en fait avec la réalité elle-même. Question numéro 3. Quel est le pouvoir des mots? Dans le dialogue de Platon intitulé Gorgias, le sophiste du même nom, donc Gorgias, déclare, je cite, « Si tu savais tout, Socrate, tu verrais que l'art oratoire englobe en lui-même et tient sous sa domination toutes les puissances. » Qu'est-ce à dire ? Selon les sophistes, adversaires du philosophe Socrate, lui-même maître à penser de Platon, les mots seraient un instrument de pouvoir extrêmement puissant, le plus puissant de tous même, puisqu'ils peuvent se substituer à tous les savoirs comme à tous les savoir-faire. L'orateur est en effet capable, grâce à sa maîtrise de la rhétorique, qui lui permet de faire de beaux discours, de persuader son auditoire qu'il sait de quoi il parle, alors qu'en réalité, il ne possède pas de savoir proprement dit, hormis le savoir-faire oratoire. Peu importe si ce que l'on dit est vrai, pourvu que l'auditoire croit que c'est vrai. Ce principe vaudrait ainsi en tout domaine, et particulièrement en politique, où il s'agit d'obtenir l'adhésion du peuple afin qu'il accepte de suivre tel ou tel leader. Notons que Gorgias et ses confrères ne sont pas de simples menteurs, car le menteur sait encore faire la différence entre le vrai et le faux. Alors que pour les sophistes, il n'y a plus ni vérité ni erreur, mais seulement des opinions et des croyances totalement manipulables au moyen du langage. Cette conception qui semble très actuelle, finalement, on pense ici aux experts en communication qui mettent souvent leur talent au service des politiques, a été combattue dans l'Antiquité par les philosophes Socrate et Platon, pour qui le vrai pouvoir des mots ne consiste pas à persuader ou à manipuler un auditoire au moyen de la rhétorique, mais à tenter de le convaincre au moyen d'un discours conforme à la logique et à la raison. Concluons. Le langage est une notion centrale de la réflexion philosophique puisqu'il s'agit de l'instrument par excellence dont se servent les philosophes pour penser. À ce titre, ceux-ci ont souvent fait de la faculté de parler une faculté spécifiquement humaine, considérant que la simple communication à but utilitaire, qui est commune à l'homme et aux animaux, même les animaux sociaux, ne constituait pas la fonction essentielle du langage. Le philosophe grec Aristote, qui a vécu et pensé au IVe siècle avant Jésus-Christ, définissait ainsi l'homme comme l'animal doué de parole. Toutefois, nous avons vu également que le langage pouvait avoir d'autres usages et d'autres fonctions que la pensée, à savoir notamment la manipulation des opinions et des croyances individuelles et collectives au moyen de la technique rhétorique. En définitive, le langage se révèle être une faculté humaine extrêmement ambiguë, car vectrice à la fois de la vérité et de l'erreur, ou du mensonge, de la liberté individuelle de penser, et de la soumission aux préjugés.